France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Thomas Joly.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Il vient d'être nommé Thomas Joly à la tête du Quai, le Centre National, Centre Dramatique National d'Angers. Des mises en scène de Shakespeare avec la compagnie La Piccola Familia qu'il a fondée ont marqué les esprits. De même que son Tieste de Sénèque l'an dernier en ouverture dans la grande cour d'honneur du Festival d'Avignon. Mais Thomas Joly a aussi imprimé la rétine à l'Opéra. Elio Gabalo de Cavalli, c'était à l'Opéra de Paris, à Garnier, Fantasio d'Offenbach, c'était à l'Opéra Comique, mais au Théâtre du Châtelet, hors les murs, comme on dit. Et puis il vient de mettre en scène, Thomas Joly, l'opéra d'un compositeur vivant, Pascal du Sapin, Macbeth Underworld, on revient à Shakespeare. C'était tout récemment à Bruxelles, à la Monnaie, ce sera l'année prochaine à l'Opéra Comique, à Paris et à Rouen. Mais en ce moment, là, ce soir... Demain, vous jouez et chantez et mettez en scène Un jardin de silence. C'est jusqu'au 3 novembre à Paris à la Scala. Évocation, comment dire, impressionniste, délicate, pas imitatrice de Barbara avec la chanteuse Elle, Raphaël Lanader. Thomas Joly, j'ai horreur de poser des questions dont je connais déjà les réponses et puis j'ai pas du tout envie de ressembler à l'intervieweur de votre spectacle. Alors, première question. Ce spectacle, il est né d'une rencontre avec Elle, Raphaël Lanader. Il est né comme ça un matin. Ici sur France Musique.
C'est ça, il est né un matin sur France Musique dans la matinale culturelle, à l'époque présentée par Vincent Josse. C'était en 2014, j'étais l'invité de l'émission. Raphaël Lanader est arrivé, donc il est tôt, hein, comme aujourd'hui. Elle est arrivée avec un sachet de sucre, comme on en trouve dans les machines à café, et elle a commencé comme ça à le secouer et à chanter. Et j'ai été envoûté sur le plateau, et on s'est donc... donner rendez-vous après cette émission pour voir nos travaux respectifs. Elle est venue voir mes spectacles, je suis venu voir ses concerts, elle m'a envoyé ses albums. Et puis elle avait depuis longtemps ce projet de faire un spectacle qui pouvait un peu exorciser son rapport à Barbara, puisque Barbara est pour elle une espèce de muse et en même temps une figure de fascination et de détestation.
Détestation
ouais,
aussi.
Il y a un moment, elle avait besoin de régler ses comptes avec... la grande dame brune, comme on dit. Et donc l'idée était d'inventer un spectacle autour de la figure de Barbara, mais on tombait un petit peu à l'époque dans tout ce qui se passait de commémoratif
autour des 20 ans de sa disparition.
Tout à fait. Et on a d'ailleurs un petit peu attendu. Et puis on s'est surtout dit comment est-ce qu'on ne travaille, on ne va pas être dans un biopic, ni dans un spectacle hommage, ni dans un best-of de Barbara, mais plutôt d'essayer de faire un portrait de Barbara en creux.
Donc oui, il y a eu le Barbara de Mathieu Amalric au cinéma. Il y a toujours le Barbara chanté par Gérard Depardieu. Il y a aussi le pianiste Alexandre Tarot qui a fait son Barbara autour de Barbara. Alors ce spectacle, oui, c'est une évocation impressionniste de Barbara à travers notamment des interviews de Barbara, la vraie, des archives, des moments aussi rejoués. Elle et Barbara, vous êtes par moments, je le disais, l'intervieweur. Extrait.
Quand vous rentrez en vous-même, comme vous dites, quand vous vous isolez, c'est pour retrouver qui ou quoi?
C'est pour pouvoir être plus généreuse, si vous voulez. Le terme me paraît un peu grandiloquent. Plus je suis dans une grande salle, sur une grande scène, plus il y a de monde. Parce qu'on me pose souvent la question. Mais le cabaret, vous ne préfériez pas le cabaret? Non, pas du tout. Je préfère 1000 fois être devant 2000 personnes. Comprenez, c'est plus extraordinaire parce que j'arrive à m'enfermer davantage, à me replier, à me faire tout à fait un jardin de silence en scène. Et de ce fait, j'arrive à aller mieux vers les gens.
Mais ce que vous retrouvez en vous, c'est quoi?
Ah, c'est quoi, point de suspension? Un jardin en silence en scène, c'est donc la raison dans cette phrase du titre de ce spectacle en ce moment à la Scala Paris, Thomas Joly. Vous aussi, vous préférez jouer devant 2000 personnes?
Je la comprends très bien parce qu'effectivement, devant 2000 personnes, on peut effectivement beaucoup plus s'isoler parce que la masse est tellement importante que ça devient assez flou. Alors que à la Scala, par exemple, où la salle est beaucoup plus petite, ou dans des salles très très intimes avec 100 personnes, on est très très à nu, c'est vrai. Donc je comprends parfaitement cette phrase de Barbara. Et en fait, quand on a commencé à réfléchir autour de cette figure, il y a trois grandes thématiques qui sont sorties, qui se sont dégagées en tout cas. D'abord son rapport à l'humour, enfin son humour d'abord tout simplement.
Et ses chansons fantaisistes.
Et ses chansons cabaret, celles de ses chansons fantaisistes qu'elle a chantées au début de sa carrière, quand elle chantait les autres, avant d'écrire ses propres chansons. Et son humour qu'on entend non seulement dans ses chansons-là, mais aussi dans les interviews qu'elle peut donner avec les journalistes, avec lesquels elle a un rapport très insolent, elle les titille en fait. On dirait qu'ils sont un peu impressionnés toujours. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas forcément les questions de questions très pertinentes. La deuxième chose, c'était son engagement dans la lutte contre le sida, chose qu'on connaît peu.
Parce qu'elle avait choisi
exactement
de ne pas le médiatiser du tout.
Du tout. Elle y veillait, et c'était une condition d'ailleurs. Et donc, alors on trahit un peu, mais il y a eu, enfin, on trahit avec ce qu'il y a aujourd'hui d'existant, c'est-à-dire certains témoignages, très peu de choses. Donc, on a aussi construit autour de ça. Et enfin, ce que vous disiez, enfin, cet extrait qu'on vient d'entendre, son rapport d'artiste, enfin, sa réflexion autour de la définition d'artiste. Elle est l'une des rares, je crois, à mettre le doigt sur ce qu'est la vérité pour un artiste et le rapport avec son public. Elle est dans une absolue vérité, c'est-à-dire qu'elle ne veut jamais tricher. Elle a d'ailleurs arrêté les tours de chant quand elle sentait qu'elle-même n'était plus assez honnête et qu'elle tombait dans ce qu'elle appelait un fonctionnariat du métier. Et ça, par exemple, je la remercie follement d'avoir inventé ce concept, enfin pas inventé, mais d'avoir mis les mots dessus, parce que c'est vrai que si on ne vient pas en scène avec un rapport de vérité absolue et d'honnêteté, ce qu'elle a fait toute sa vie, et c'est à mon avis pour ça qu'elle est une grande artiste et que son public l'a suivie à ce point, alors effectivement mieux vaut arrêter.
Le côté sacré de la scène avec cette robe que personne n'a le droit de toucher.
Il ne voit jamais la lumière du jour.
Et puis quand elle dit qu'elle est avant tout une interprète, c'est étonnant, Elle parle de ses chansons comme de petits zinzins, et d'ailleurs beaucoup de chansons qu'on entend dans le spectacle, ce sont des chansons qu'elle interprète mais qu'elle n'a pas écrites, car on n'entend pas les grands tubes de Barbara. Moi je vous propose un collage à d'autres façons, c'est un D'accord. peu le vôtre et un peu le nôtre, okay. Barbara qui parle avec ce débit tout à fait, ce phrasé tout à fait particulier qui évoque un petit peu, je trouve, Françoise Sagan, et puis elle, Raphaël Lanader, qui la chante, Barbara, puis vous qui la chantez. Et on a ajouté Barbara, j'espère que vous me suivez, qui la chante, donc c'est parti.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde, au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde, et moi faut que je me morfonde, la Joconde, et moi faut que je me morfonde, la Joconde. La Joconde.
Bon, bien sûr, c'est triste, mais c'est bien, c'est bellement de mourir d'amour. Et puis, Fraxin, il faut dire une chose, c'est qu'avant tout ça, il avait une vie extrêmement libertine, chose que le Christ n'aurait pas pu se permettre, et que dans le fond, tout est bien comme ça. Alors, la chanson s'appelle Les Amis de Monsieur, c'est une chanson un petit peu audacieuse, mais enfin. Et à cette époque-là, d'ailleurs, à l'époque où j'ai commencé à chanter cette chanson, on a dit, oh, c'est fou, c'est une intellectuelle. Enfin, c'est pour vous dire tout ça, bon. J'aurais jamais rien compris, d'ailleurs.
Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur, v'là-t-il pas qu'il reluque sa servante, et qu'il a reluque en amateur, il lui dit, mais dis donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentille, votre personne craint un chien, naturel doit être très bien.
Oh monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durant de plus en plus s'emballe, la petite bonne, il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flatté, dans ta chambre je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Oh monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, paraît que je possède un bon lit, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, durant s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, oh, je n'ai jamais vu de si beau. Oh, monsieur, répond la petite bonne, est-ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, je comprends que vous soyez ébahi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette et qu'il n'est pas vilain garçon, elle fut pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, je trouve exquise, c'est merveilleux, et que ma femme tu t'y prends bien mieux. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que madame, pardi. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
Soigner la chute dans ses chansons, c'est ce qu'il y a de plus important. La Joconde, qui n'est donc pas une chanson écrite par Barbara.
Thomas la Joconde, non, Philippe Meyer. Et ce qui est très beau et contradictoire d'ailleurs, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas, et elle le dit comme ça exprès, un auteur-compositeur quand on lui pose la question, alors que bon, elle l'est, elle écrit ses propres chansons qui sont des diamants absolus. Mais elle est aussi, et elle y tient, elle aime la chanson et elle aime être interprète. Elle dit que la chanson, c'est une pièce de théâtre en 3 minutes, c'est un flash, c'est une peinture, elle dit ça. Et on l'entend bien là, par exemple, dans Les Amis de Monsieur, qu'elle fait comme ça une petite histoire, mais aussi au-delà de la narration et du soin qu'elle donne, par exemple, à la chute, elle est aussi, et je crois que c'est ce qui m'a touché chez Raphaël Lanader quand je l'ai entendu sur France Musique, c'est qu'elle a ce talent, comme Barbara, comme Brel, comme Léo Ferré, comme plein d'autres, des grands interprètes en tout cas, qui est de savoir parler très profondément d'eux-mêmes tout en parlant de moi qui les écoute. Je te donne souvent cet exemple que quand j'écoute Nantes, par exemple, je suis touché comme si mon propre père était mort à Nantes, alors que mon père n'a jamais habité à Nantes et que, fort heureusement, il n'est pas mort. Donc, il y a cette chose-là de rapport à l'intime, directement, qui est de parler de soi en parlant universellement. Ça, Barbara l'a absolument, et c'est pour ça qu'elle est aussi une grande interprète.
Et vous, Thomas Joly, c'est la première fois que vous chantez ?
Alors, non seulement c'est la première fois que je chante, je suis quand même en train de passer sur France Musique en train de chanter, et en plus vous m'avez mis en duo avec Barbara, alors je veux dire que moi aujourd'hui c'est ma journée. Oui, c'est la première fois, c'est un pas de côté, et c'était un peu le deal aussi avec Raphaël Lanader. La blague veut qu'on se dise ensemble que je lui apprends à parler et qu'elle m'apprend à chanter. C'était vraiment, vraiment l'idée de faire que cette figure de Barbara soit passante entre les trois interprètes que nous sommes sur scène. Babix, Raphaël Lanader,
le pianiste,
tout à fait.
Qui joue aussi d'ailleurs, Gainsbourg.
Qui parle, qui chante. Voilà, on chante tout. Alors moi, on chante tous, on parle tous. Et Barbara se distingue comme ça entre nous trois.
Vous, Thomas Joly, c'était quoi votre rapport à Barbara avant ? C'est ce que vous disiez ? C'est dès l'enfance ou depuis longtemps, elle vous touchait et elle vous parlait ?
Je l'ai découverte tard, Barbara, à cause d'une amoureuse à moi, qui était absolument fan, mais j'étais déjà au lycée, lycée-université. Donc je l'ai découverte où j'étais adolescent et je crois que quand on est adolescent, c'est une parole qui fait du bien, qui met des mots sur des complexités qu'on peut ressentir, des sentiments étranges, des émotions, et que elle m'a accompagné à ce moment-là. Mais je n'ai pas, et je crois que c'est heureux pour travailler, ça m'a en tout cas servi à travailler sur le spectacle, je n'ai pas de fanatisme pour Barbara, je n'ai pas une admiration.
Fétichisme.
Non, voilà. J'ai pas une admiration qui m'aveugle pour Barbara. Donc voilà, ça a été vraiment, le projet est venu surtout de Raphaël, et moi, j'ai été invité à l'accompagner.
Ce qui est intéressant aussi dans ce spectacle à la Scala Paris jusqu'au 3 novembre, c'est quand elle parle de son mal-être à parler d'elle-même comme artiste, vous qui êtes au micro là ce matin, qui parlez si bien. Elle n'aime pas ça, elle hésite, elle dit « mais pourquoi vous me posez cette question ?»
Je n'aime pas parler de moi, je crois que les artistes n'aiment pas trop parler d'eux-mêmes, ou alors c'est que je ne suis pas une artiste, enfin j'aime pas, voilà c'est tout. Oui, mais en fait je pense qu'il y a quelque chose de la pudeur chez Barbara, qui est salvateur. Elle a su garder un jardin secret dans sa maison, par exemple, où il y avait des visiteurs assez
rares. Un jardin de silence.
Voilà. Sa maison appréciée sur Marne. Son rapport aussi très finalement caché, mais pour moi c'est exactement comme un acteur. C'est-à-dire que elle est maquillée, elle est costumée, elle est coiffée, elle est masquée avec ses grandes lunettes noires. Et c'est ce qui lui permet d'être absolument présente. Vous savez, en théâtre, par exemple, dès qu'on met un masque, on se sent bizarrement encore plus nu, encore plus vraiment présent que si on n'en a pas. Et je pense que tous ces apparats d'acteurs qu'on se met sont le moyen d'accéder à ce que moi j'appelle l'honnêteté du courage de soi. Et elle l'a, ça. Ou le courage de l'honnêteté de soi, d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Et elle l'a absolument. Elle est absolument vraie sur scène, en scène. Mais par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que après le rapport médiatique, le rapport dans la vie, on n'a pas à savoir ce qu'elle fait, pourquoi elle arrête le tour de chant. Tout ça, la regarde. Et moi, j'avoue, je partage plutôt son avis.
Un jardin de silence à la Scala, Paris, jusqu'au 3 novembre, avec Raphaël Lanader, Elle, Babix, ne l'oublions pas, et Thomas Joly, un spectacle, une rêverie, peut-être c'est le mot le plus juste de Barbara. Nous passons à Pascal Dussapin.
Sans transition.
Un lien quand même, parce que Pascal Dussapin était la première de ce spectacle à Paris la semaine dernière. Pascal Dussapin, Macbeth Underworld, c'est un enregistrement que nous a fourni La Monnaie de Bruxelles. C'était le mois dernier, la création mondiale de cet opéra de Pascal Dussapin. Alain Altinoglu dans la fosse avec l'orchestre de La Monnaie, des chanteurs dont vous allez me donner les noms. Et c'est vous qui signez la mise en scène, Thomas Joly.
On vient d'entendre Georg Nigel qui joue Macbeth et Magdalena Kojena qui joue Lady Macbeth. Oui, j'ai fait la mise en scène de cet opéra de cette création, et ça a été c'est mon troisième opéra.
Il y a Cavalli.
Alors voilà, regardez la chance que j'ai. J'ai fait Cavalli, qui n'est même pas un opéra, qui est un drama per musica, comme on dit, qui est donc avant même ce qu'on appelle entre guillemets l'opéra. Le Offenbach, où là on est bien au 19e, opéra comique qui mêle beaucoup de théâtralité, Fantasio, qui d'ailleurs sera aussi à l'opéra comique en décembre 2020, je crois. Enfin, il retourne à la maison. Et puis là, Pascal Dussapin, création mondiale. Donc en fait, en trois opéras, j'ai fait, je crois, tout le spectre. Maintenant, il faut que je remplisse un peu les trous au milieu, mais ça a été une aventure très singulière parce que, justement, c'était une création. Que quand Pascal Dussapin m'a proposé de mettre en scène cet opéra, l'opéra n'était pas terminé.
Il n'y a pas de disque.
Il n'y a pas de disque, il n'y avait pas d'enregistrement. J'ai eu droit à une lecture au piano avec un pianiste au printemps dernier. Et puis, voilà, il fallait donc inventer une mise en scène à partir de cet opéra en train de s'écrire. Et alors c'est une vraie énigme pour un metteur en scène, comment faire. Et j'ai eu cette idée de demander à Pascal Dussapin, en fait, de me dire sa partition, de me parler sa partition. C'est-à-dire que je l'ai filmé. Ça ressemble un petit peu à l'abécédaire de Gilles Deleuze comme document, quelque chose d'assez austère mais passionnant. C'est-à-dire qu'il est devant sa partition, il tourne les pages et il parle. Alors, il emploie des adjectifs, il chantonne pas, il ne fredonne pas, vraiment, il exprime avec ses mots sa musique, images, adjectifs, comment son corps bouge, comment il s'engage aussi. Avec tout ça que j'ai retranscrit, j'ai écrit une mise en scène qui en fait s'est vérifié finalement très tard, puisque vous savez qu'à l'opéra on découvre, enfin en tout cas là, l'orchestre est arrivé une semaine avant la première. Donc c'était un risque, mais c'est un risque qui a été payant.
Et c'est à nouveau Shakespeare.
Et voilà.
Macbeth.
Là pour le coup, là j'étais en terrain connu, un peu plus connu, bien que Frédéric Boyer, qui signe le livret, ait vraiment voulu, et d'où le sous-titre d'ailleurs, vraiment voulu faire une adaptation de Macbeth en resserrant l'intrigue autour du couple, autour de leur amour aussi, et de leur amour criminel, de leur culpabilité, puisque en gros ce qu'on pourrait résumer l'opéra comme ça, c'est vraiment Lady Macbeth et Macbeth qui sont coincés de toute éternité à revivre perpétuellement leur histoire, et donc à revivre leur crime et être confrontés à leur fantôme. En permanence. Donc on est vraiment sur, on a les motifs de Macbeth, ils sont tous là, on a le poignard qui vole, les taches de sang sur les mains de Lady Macbeth, on a les fantômes, on a les costes, on a tout ça, mais on a surtout un resserrement de l'intrigue autour des deux.
Thomas Joly, en trois opéras, qu'est-ce que vous avez comme metteur en scène appris avec ce qu'on appelle souvent le spectacle total?
Ouais, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je crois que je ne travaille plus du tout de la même façon au théâtre depuis. Et je crois aussi que c'est ce qui m'a permis de réaliser ce spectacle pour la Cour d'honneur parce que...
Thiès de Sénèque, qui a un côté opératique avec de la musique quasiment tout le temps.
Oui, et puis un décor opératique et puis un espace surtout qui commande. En fait, ce qui est assez intéressant à l'opéra, je trouve, c'est que le metteur en scène est soumis, entre guillemets, à des forces qui sont plus fortes que lui, alors qu'au théâtre, le metteur en scène est assez tout-puissant. À l'opéra, non. Et comment se glisser dans une musique? Comment se glisser dans les contraintes techniques d'une maison aussi gigantesque? Comment se glisser dans aussi les questions musicales, direction musicale, de... Tout ça, en fait, est un parcours un peu, parfois... épineux, mais assez passionnant. Et la question aussi de la temporalité à l'opéra. Vous savez, quand je monte un opéra, je dis toujours, alors là il se passera, parce qu'en fait c'est un opéra, enfin c'est un art que j'appelle l'art du futur, c'est-à-dire qu'on ne fait que parler au futur, et tout arrive très très tard. Donc la question, faut pas être cardiaque parce que tout est très mental en répétition, c'est étonnant, on est pourtant longtemps en répétition et tous ensemble en salle de répétition, mais tout est très mental et au final tout arrive très tard. Donc ça, pour le coup, ça m'a complètement fait revoir mon travail au théâtre, complètement.
Thomas Joly, on revient en février 2017 au Théâtre du Châtelet avec ce méconnu et magnifique Fantasio d'Offenbach qui sera donc redonné l'année prochaine à l'Opéra Comique.
Il ne sent rien du tout. Il est bête à faire plaisir.
Ah, voilà Fantasio qui arrive.
Ah, qu'a-t-il ? Ce dandy comme un conseiller de justice ? Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse lubie mûrit dans sa cervelle ?
Petit extrait, voyez dans La Nuit Brune, l'air de Fantasio d'Offenbach, Marianne Crébassa, c'était l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Laurent Campellone, un enregistrement France Musique de 2017. Thomas Joly, vous avez des nouvelles envies d'opéra ou peut-être même des projets signés mais secrets?
Des projets secrets, oui, il y en a, et des envies, il y en a aussi.
Bon, on n'en saura pas plus puisque c'est secret. Ça n'est pas secret, vous venez d'être nommé, bravo.
Merci.
Ok, Centre National Dramatique d'Angers. Pour finir, en quelques mots, c'est quoi vos envies, vos projets? Un théâtre politique, ça revient souvent quand vous parlez de théâtre et de vos envies au-delà de la mise en scène.
Je crois que ces maisons sont des outils absolument précieux parce qu'ils renferment la pensée, parce qu'ils préserve la question du vivre ensemble, du faire ensemble, du penser ensemble, et que même si on voit des spectacles, et là on parle beaucoup des spectacles, par exemple ce matin, ils sont toujours pour moi inscrits dans une logique d'outils, c'est-à-dire que la compagnie, la Piccola Familiale est un outil au service...
Votre troupe.
Ouais, est un outil au service, en l'occurrence de tout le monde, mais du territoire de Normandie, puisque c'est là-bas que nous sommes installés pour l'instant. Donc le travail, le projet pour le quai, le CDN d'Angers, va être du même ordre, c'est-à-dire de faire un lieu de culture, évidemment, des cultures. Moi, j'aime bien, en fait, je crois qu'il y aurait une fusion à faire entre les modèles différents qu'il y a eu. Il y a eu les maisons de la culture, qui pour moi sont vraiment des utopies, qui ont été incroyables, les centres dramatiques, bien sûr. Et peut-être qu'il faut fondre tout ça pour faire une maison des cultures. Soit j'aimerais bien, d'autant que le CDN, le quai abrite dans ses murs le CNDC, le Centre National de la Danse Contemporaine, qui va être dirigé par Noé Soulier, nouvellement nommé également. Donc on a comme ça vraiment un brassage de différents arts, et je pense que dans l'hybridation, on va pouvoir... Enfin, le mot d'hybridation, en tout cas, est un mot qui va être clé dans le projet.
Thomas Joly qui quitte la scène SEINE pour la Loire à Angers, au Centre National Dramatique d'Angers. Un jardin de silence, une magnifique rêverie autour de Barbara avec Babix, avec Raphaël Lanader et donc vous, Thomas Joly, sur scène. Vous chantez, vous mettez en scène, c'est à la Scala de Paris. Je crois 3 novembre, on se quitte avec une chanson qui est dans le spectacle fort peu connue et très drôle de Barbara.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra, d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un petit air malin, il en prit deux dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, des marrons et mon cœur chaud. Cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, et les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua: à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou mou. Elle vendait des petits gâteaux, des petits bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, ils sont sept ans tremblotants, dans un verre d'eau et d'orgea, une pauvre petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère: mangez ces croquignoles. Il répond d'un ton sec: je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux que je voyais bien qu'il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux: bah mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez dans la merde avec.
À réécouter sur francemusique.fr.